Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle du fameux projet de loi 96 sur la langue française, des raisons des difficultés de la langue française au Québec, avec qui? Deux anciennes ministres du Parti québécois, deux Louise, Louise Arel et Louise Beaudoin, qui comparaissaient en commission parlementaire aujourd'hui à ce sujet. Mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Amateur de rock lourd, expert en steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Pas trop fatigué ta soirée à Montréal avec le Bloc?
Ben non, pas si pire. Bien que c'est évidemment, ça finit tard dans la nuit. Mais c'est toujours intéressant d'être là sur place.
Oui.
Bien qu'évidemment, c'est pas le même feeling que les soirées électorales qu'on a connues dans le passé, disons là. Hey. À mesure sanitaire, il n'y avait pas grand monde,
dire, au centre. Ça fait pitié, hein?
Ouais.
On est loin des rassemblements péquistes, mettons 1976. Où c'est vraiment l'allégresse.
Ouais. Non, c'était vraiment pas la fièvre, mais pas du tout.
C'est triste. Petit retour justement sur le résultat de l'élection, parce qu'il y a eu beaucoup d'échos aujourd'hui ici sur la colline.
Alors, les partis d'opposition ont eu beau jeu de se moquer de François Legault, qui se retrouve un peu Grosjean comme devant avec son positionnement plutôt en faveur des conservateurs et qui avait qualifié le Parti libéral de dangereux et inquiétant.
Oui. Alors, ça a été un tir groupé, hein?
Oui, exactement.
Ils ont tous dit, c'est le vrai perdant de la soirée.
Dominique Anglade a été celle qui a frappé le plus fort, je dirais, en disant c'est le grand perdant de la soirée. Il a entraîné les Québécois dans son pari risqué. On est tous perdants. Et le Parti québécois, Gabriel Nadeau-Dubois aussi, est allé dans le même sens.
Avez-vous vu André Fortin dans les corridors? Parce qu'il devait être content, lui.
Je ne l'ai pas vu. Non. Et François Legault s'est défendu, lui, en soutenant que si c'était à refaire, il le referait. Et de la même façon. Je comprends un peu, parce que François Legault, à mon avis, écoute, je vais séparer ça en deux, je pense qu'il avait raison d'intervenir pour défendre les champs de compétences du Québec. D'ailleurs, Dominique Anglade dit « c'est le grand perdant ». Et plus tard, après ça, dans son allocution, elle dit « on doit défendre bec et ongle les compétences ».
Ben
oui. Bon, alors c'est ça qu'il a fait, M. Legault, là. Sauf que M. Legault, là où il est allé trop loin, justement, c'est en qualifiant les libéraux d'inquiétants et dangereux et en pointant vers le Parti conservateur en disant « je trouve que c'est une bonne approche pour le Québec, l'approche d'Erin O'Toole ». Alors là, c'est là qu'il est allé comme trop loin. C'était pas nécessaire, il aurait pu faire une très, très bonne intervention contre l'intrusion dans les champs de compétences du Québec sans aller jusque-là. Et là, c'est avec cet petit héritage-là qu'il doit composer maintenant, M. Legault. Est-ce que le Québec se retrouve nécessairement affaibli? Est-ce que les relations Québec-Ottawa seront très tendues? Honnêtement, je pense que pas tant. C'est sûr qu'il y a sûrement un ressentiment de la part de Justin Trudeau, qui n'a pas apprécié les sorties de François Legault à répétition, en plus.
Ben oui.
Il a vraiment insisté. Mais ceci étant, c'est vrai quand même que le gouvernement libéral est un gouvernement libéral minoritaire et François Legault a répété aujourd'hui qu'il doit tenir compte, M. Trudeau, de ce que les Québécois ont exprimé. Bien sûr, il y a encore beaucoup de députés libéraux au Québec et c'est le gouvernement libéral qui est au pouvoir. Mais M. Legault faisait remarquer que quand on les additionne, il y a plus de députés du Bloc et du Parti conservateur au Québec que du PLC. Alors, je pense aussi que quand même, M. Trudeau ne peut pas se comporter en matamore à l'endroit du Québec là, parce qu'il n'est pas content de François Legault. Il est en situation minoritaire et c'est vrai, M.
Legault. Il y aura un jour un autre rendez-vous électoral où il va vouloir solliciter le vote des Québécois. Donc...
Oui, exactement. Et c'est vrai que s'il veut une majorité, ben, il faut qu'il fasse davantage de gains au Québec. Et donc, il doit tenir compte de la réalité de ce qui est exprimé ici. Donc, est-ce que vraiment il a l'intention rapidement de rentrer dans les champs de compétences avec ses engagements en santé? J'ai hâte de voir, parce que c'est sûr qu'il a l'appui du NPD là-dessus, mais c'est sûr que ce serait donc une collision frontale avec le Québec. Alors, ça va être quand même très intéressant.
Il y a une question qu'on va devoir devoir poser à François Legault à un moment donné. Êtes-vous prêt à aller devant les tribunaux pour protéger les champs de compétences? Parce que, après tout, les tribunaux sont censés être les arbitres. Bon, c'est des arbitres choisis par Ottawa. C'est problématique. Mais quand même, peut-être que l'arbitre pourrait dire à un palier de gouvernement, vous allez beaucoup trop loin, oui. C'est pas dans votre juridiction.
Mm-hmm, effectivement, l'arbitre ouais. pourrait statuer.
Alors, ça, lors d'un prochain point de presse, ce sera une question à François Legault. Parlons infirmières maintenant. Un plan pour embaucher des infirmières qui est dévoilé au compte-gouttes, dis-tu?
Oui, bien, c'est l'impression qu'on a parce que monsieur. D'abord, il y a eu M. Legault qui a parlé là, d'incitatifs financiers pour faire revenir des infirmières à la retraite, notamment qui a parlé d'une possible bonification de l'ensemble des infirmières pour accoter ce qui est offert au privé et pour que des infirmières du privé reviennent au public. Et par la suite, bien, il y a eu quelques autres petits indices. Et Christian Dubé, aujourd'hui, a parlé d'une réorganisation. Des façons de faire, des ressources humaines pour donner de meilleures conditions. Il a dit, il n'y a pas que les primes. Il y a les primes, c'est une chose, mais il a dit, il faut vraiment, ce qu'on entend là, du côté du syndicat des infirmières, c'est que ça prend de meilleures conditions. Donc, on entend par là horaire, probablement, moins de surcharge, plus de temps supplémentaire obligatoire, c'est ce qu'on souhaite. Et Christian Dubé, il nous a donné aussi un autre indice. Il a dit on va s'inspirer du succès qu'on a eu avec la campagne de vaccination. Et dans la campagne de vaccination, ça prenait des milliers de personnes. Je pense qu'ils ont été à peu près 12 000 personnes qu'ils ont recrutées pour pouvoir vacciner les Québécois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis que des gens à la retraite conservent leur salaire ou des gens ailleurs dans le réseau conservent le salaire qu'ils avaient. Et ils avaient, en plus, la rémunération comme vaccinateurs. Et en plus de ça, on a ajouté des primes. Et ce qui est intéressant, c'est que les primes étaient augmentées. Plus la personne vaccinait longtemps, plus la prime devenait intéressante. Alors, c'était, juste pour rappeler, là, 75 $ par semaine. Mais après ça, c'était 100 $ après la quatrième semaine, 150 après la huitième semaine, et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai l'impression que quand Christian Dubé nous dit on va s'inspirer de ce succès-là, je pense qu'il y a de ça. Probablement que dans la rémunération qu'on va ajouter, il y aura en même temps un incitatif à rester quand même pendant un certain temps parce qu'on veut pallier, disons, au fait que pour former des infirmières qu'on va embaucher, ça prend 3 ans, alors on a du temps à combler. Donc ça, c'est sûr qu'on aura le détail jeudi, M. Dubé l'a annoncé, mais on voit quand même poindre donc des indices à l'horizon. L'autre chose aussi, rapidement, il a déjà parlé dans les derniers jours du Jewish Hospital comme d'un modèle. On me dit que là-bas, il y a des horaires où, par exemple, les employés font 12 heures pendant un certain nombre de jours, mais après ça, ils sont en congé pendant plusieurs jours de suite.
Oui, oui, oui.
Et ça permet une plus grande stabilité dans les horaires. Ça permet donc une prévisibilité. L'infirmière ne rentre pas en se disant « c'est sûr que je vais faire un 16 heures parce qu'on va m'obliger à rester » ou bon. Alors, tous ces indices-là, là, ça, je pense que ça commence à donner une idée du portrait de ce qui s'en vient.
Toi, tu es toujours à 12 heures, Rémi, ici, au Parlement?
Je ne les calcule pas, mes heures. Mais par contre, c'est plus facile que de donner des soins dans un hôpital.
Effectivement.
Ça ne se compare pas.
Parlons Jonathan Drouin maintenant, parce que la LNH s'est un peu invitée au Salon Bleu aujourd'hui.
Oui, c'est David Birnbaum donc, qui a souligné le courage...
Du Parti libéral du Québec.
Oui, de Darcy McGee, qui a salué, oui, le courage, dis-je bien, de Jonathan Drouin, qui a donné une entrevue dans laquelle il a expliqué qu'il souffrait de crises d'anxiété depuis longtemps. Il s'est ouvert sur ces problèmes qui ont mené donc, à une fin de saison plus hâtive et qu'il n'a pas participé aux séries éliminatoires. Alors, David Birnbaum, qui a beaucoup la question de la santé mentale à cœur et qui a déjà souffert d'une dépression, il l'avait raconté, il a tenu à souligner ça, mais en même temps, il l'a retourné au Salon Bleu en posant la question au ministre Lionel Carman. Il a dit « Jonathan Drouin, lui, il a quand même la chance d'avoir des ressources qui lui ont donné un coup de main. Alors, quand est-ce que les Québécois, eux, vont pouvoir aussi avoir des soins sans attendre? » Il a dit 2 ans, là, ça, c'est ses propos à lui. Lionel Carman a nuancé. Mais donc, je voulais le souligner, c'est M. Birnbaum qui a pris la balle au bon ou la rondelle, puisqu'on parle d'un joueur de hockey, et qui l'a souligné au Salon Bleu.
Rapidement, en terminant, une attaque à micro fermé au Salon Bleu. T'as entendu ça en direct de la tribune? Moi, aujourd'hui, j'étais pas là, malheureusement.
Oui, mais... bien, c'est ça. Je pense que ce serait bien de temps en temps qu'on souligne ces attaques à micro fermé parce que nous, on les entend du haut de la tribune. Alors, Pascal Bérubé a lancé un prétentieux.
À qui?
Simon-Jolin Barrette.
À propos de?
Parce que Pascal Bérubé posait des questions sur la nouvelle mouture de la loi 101 du gouvernement Legault, pour lesquelles les consultations ont commencé, et reprochait de ne pas aller assez loin. Simon-Jolin Barrette s'est levé en disant « Nous, on a réveillé le PQ » et Pascal Bérubé n'a pas aimé ça et donc il a lancé ça à deux reprises. Il l'a regardé, il a dit « Prétentieux ».
Merci beaucoup, Rémi.
Merci.
C'était Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Deux Louise, toutes deux anciennes ministres du Parti québécois, déposent aujourd'hui un mémoire commun sur le projet de loi 96 ici en commission. C'est Louise Beaudoin et Louise Arel, toutes deux au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, je suis curieux, votre réaction à l'élection fédérale d'hier, Louise Beaudoin?
Eh bien, moi, finalement, en tout cas, je suis assez contente des résultats du Bloc. Dans le fond, si François n'avait pas dit à un moment donné qu'il pensait avoir 40 comtés, tout le monde trouverait que c'est un triomphe.
Oui.
Parce que c'est mal barré au départ. La campagne pendant les 15 premiers jours ne décollait pas vraiment, celle du Bloc et toutes sortes de controverses. Mais c'est sûr que le débat en anglais a fait une grande différence. Moi, je l'ai senti dans mon entourage, je veux dire, chez mes amis et tout. Et je suis satisfaite là, de voir qu'ils ont au minimum maintenu, sinon augmenté de quelques sièges, puis qu'ils ont à peu près autant de votes que les libéraux en termes de vote au Québec. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle pour disons, les nationalistes indépendantistes comme moi.
Et Louise Arel?
Écoutez, si Yves-François Blanchet n'avait pas quantifié son objectif, aujourd'hui, on considérait que finalement, c'est une très belle performance du Bloc. Alors, c'est une leçon qu'on apprend à nos dépens. Il ne faut jamais quantifier d'objectifs parce que finalement, le fait est que le pourcentage est vraiment performant pour le Bloc québécois. Et puis, je pense bien qu'ils vont pouvoir maintenir les comtés de Trois-Rivières et de Longueuil.
Quantifier l'objectif. Ah, je retiens cette phrase-là parce que dans votre mémoire sur le projet de loi 96, parce que là, on aboutit au sujet, vous revenez constamment sur l'objectif du ministre Simon-Jolin Barrette de faire passer les transferts linguistiques à 90 % déjà que la loi 101, comme vous le rappelez, ça a fait passer les transferts linguistiques de 10 à 53. Donc, le 90 %, est-ce que c'est trop ambitieux selon vous?
Bien, écoutez, il est certain que les déclarations publiques du premier ministre Legault et du ministre Jolin Barrette sont à l'effet qu'il faut atteindre 90 % de substitution linguistique, c'est-à-dire de parler français à la maison lorsqu'on est allophone, pour assurer le maintien du poids des francophones au Québec, pour garantir la pérennité du Québec français. Alors, il me semble que même s'il n'y a pas de livre blanc, là, contrairement à ce que le Dr Lorrain avait fait en 1977 là, pour établir les objectifs de sa loi 101, ben, il me semble que on est tenu, en fait, à retenir ce facteur déterminant là, du transfert vers le français jusqu'à 90% pour s'assurer que l'on existe encore les parlants français dans le temps. Là.
Louise Beaudoin, vous écrivez avec Louise Arel, le projet de loi 96 ne changera pas foncièrement la donne et ne freinera pas suffisamment le déclin du français au Québec. Et pourtant, le projet de loi 96, il retouche à tous les chapitres de la loi 101. Et vous la connaissez bien, vous avez été ministre responsable.
Oui, oui. Pendant 5 ans, effectivement, 5-6 ans même, je crois, parce que quand je suis passée aux relations internationales, je l'ai gardé encore pendant quelques années. Mais oui, ça retouche à tout, mais qu'est-ce qui est structurant, dans le fond? C'est ça, même si ça retouche à tout. Je vous donne un exemple, les municipalités bilingues. Et là, on a envie de rire quand on lit là ce qui concerne les municipalités bilingues.
Oui.
Ils reconnaissent l'absurdité de maintenir le statut bilingue de certaines municipalités qui n'en ont plus les attributs, reconnaître ça. Puis dans la même phrase, ils ajoutent, mais il s'agira que d'un simple vote du conseil municipal de la dite municipalité pour le maintenir, ce statut-là.
Mm-hmm.
Alors, je vois là une incohérence, une incongruité, puis j'ai même écrit à un moment donné que s'il y en a une seule qui renonçait à son statut bilingue, mais moi, je m'ajouterais une 649 là, la publicité.
Non? Ah oui, vous écrivez, nous doutons fortement qu'une seule municipalité y renonce.
Oui, c'est ça.
Donc, ça,
c'est un exemple. Un exemple.
Mais est-ce que ce n'est pas un exemple de compromis au sein du caucus? Est-ce que c'est pas... On imagine que Simon-Jolin Barrette était, pour reprendre l'expression de Pascal Bérubé, un soldat solitaire un peu...
Il y a beaucoup de compromis là, dans le projet de loi 96. Est-ce qu'ils auront le courage de les colmater? C'est en fait la question. Parce qu'ils n'ont pas pu, en fait, avec insistance, rappeler ce constat de la nécessité d'un transfert des allophones vers le français à 90% pour qu'on ne juge pas de ce qu'ils proposent à ce fil conducteur de notre avenir. Alors, c'est bien sûr que, comme compromis, pensons en fait au gel ou au contingentement dans les cégeps anglais à Montréal, là, depuis 22 décennies. C'est presque, ben oui, c'est 95% de la hausse dans les effectifs, dans les collèges, la hausse d'effectifs dans les cégeps, qui a été que le fait des cégeps anglais. Alors, les cégeps français à Montréal, là, et ils se maintiennent de peine et de misère, un peu sur la barre du 50%. Vous comprenez bien que ça a des conséquences parce que ces étudiants au niveau collégial qui choisissent l'anglais, par la suite, ils vont à l'université en anglais. Et toutes les études, et un sondage d'ailleurs qui avait été fait par la Centrale des syndicats du Québec, démontre qu'à 72%, ils veulent travailler en anglais.
Ah oui. Non, c'est ça. Mais je vous lis là-dessus, puis je vous suis. Mais quand vous étiez au pouvoir, toutes les deux, vous avez même résisté parfois. Je me souviens d'un congrès, est-ce que c'est pas en 2011, Louise Beaudoin, où vous avez résisté aux appels de Pierre Curzi?
Non. Non, au congrès de 2011, au contraire, j'ai appuyé Pierre, j'ai appuyé, quand on a quitté le Parti québécois, tous les deux, j'ai appuyé la refonte de la loi 101 qu'il a présentée à titre de député indépendant.
Oui, oui.
Non, c'était avant ça, c'était bien avant.
Okay.
Et moi, je vais vous dire, c'était bien avant, puis je vais vous dire pourquoi. Et j'ai expliqué ça dans une entrevue avec Anne-Marie Dussault il y a quelques mois. C'est que j'ai cru Monsieur Robitaille, j'ai cru sincèrement pendant longtemps que spontanément, ayant bien structuré justement le primaire et le secondaire, que spontanément et naturellement, la loi naturelle serait que les allophones continueraient au cégep à l'université en français. Et on pouvait, à l'époque, imaginer cette dynamique-là. On pouvait, dans les années 2000... quand on était au pouvoir, moi j'ai quitté donc en 2003 là, comme ministre, on pouvait, peut-être c'était par naïveté, mais sincèrement, je n'imaginais pas qu'on se retrouverait dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui puis qui nécessite ce fameux coup de barre dont on parle dans notre mémoire.
Mm-hmm. Et d'autant que M. Robitaille,
oui, Louise Arel,
c'est extrêmement associé à l'immigration, parce que il y a eu à l'époque justement où Louise était ministre une forte immigration francophone et ce qu'on appelle aussi francotropes, hein,
oui.
C'est-à-dire des gens qui sont de langue latine ou encore qui sont dans des pays où on parle français. Et leurs enfants, les enfants de la loi 101, allaient justement au cégep en français et venaient souvent de cette immigration. Alors que là, l'immigration a beaucoup changé. Là, le bassin de l'immigration par lequel le Québec sélectionne ses résidents permanents, c'est celui de l'immigration temporaire qui est de compétence exclusive du fédéral et qui émet ses permis temporaires sans aucune exigence de connaissance du français. Alors, c'est massivement vers l'anglais que vont les jeunes adultes de familles anglophones ou anglotropes, c'est-à-dire venant de pays, surtout du Commonwealth.
Parce qu'il y a 25 ans, toutes les deux, vous résistiez, surtout Louise Baudouin, je crois, à des chercheurs qui disaient, qui s'inquiétaient déjà du bilan de la situation linguistique qui avait été commandée. Donc ça, il y a eu une espèce de choc en 96. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de la puissance de la mondialisation qu'on a aujourd'hui là avec les médias sociaux, Netflix et compagnie?
Ouais. Oui, parce qu'on n'était pas dans le même monde, hein. Je cite d'ailleurs dans notre texte, l'embarras des langues, parce que vous savez que Jean-Claude Corbeil était mon sous-ministre, et ainsi qu'Yves Martin, donc j'ai eu deux sous-ministres responsables de la langue avec moi, et Jean-Claude, dans l'embarras des langues, dit, on est passé, en effet, d'une pression, disons, de la minorité anglophone, bon, économique québécoise, là, qui avait beaucoup de puissance, à la mondialisation. Et nous, on était entre les deux empires. Il y a peut-être une génération là, qui a pu vivre en français, je veux dire, à peu près correctement, celle, justement, de la loi 101, c'est-à-dire entre, je dirais, l'Empire britannique, d'une part, et puis l'Empire américain, d'autre part. Puis il y a eu un espace, là.
Mais regrettez-vous de ne pas avoir écouté ceux qu'on traitait de Cassandre à l'époque?
Ben, écoutez, moi, je pense que c'était l'Office de la langue française qui avait fait, c'est Nicole René qui avait fait ce rapport-là. C'est sûr et certain que oui, j'ai des regrets. Et là, rétrospectivement, je me dis, ben oui, mais je savais pas ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis, il y avait d'autres chercheurs, je pense justement à Jean-Claude Corbeil, il y a plusieurs autres, qui travaillait avec moi au secrétariat de la langue française et qui avait une perspective différente par rapport à cette dynamique des langues. Alors oui, il y avait ça sur la table, il y avait une autre vision et moi j'ai préféré, et je vous le dis, candidement, la vision optimiste en disant ça se peut pas qu'on soit obligé continuellement de contraindre puis qu'on n'arrive pas, je veux dire spontanément, à convaincre. Puis là, je vois bien qu'on n'y est pas arrivé, c'est sûr. Mm-hmm.
Montréal, maintenant, l'administration de Montréal. Oui, Louise Arel, vous alliez dire quelque chose? Après ça, on discutera de l'administration de Montréal.
La croissance exponentielle s'est surtout produite au cours des 10 dernières années.
Oui.
Et c'était extrêmement lié aussi avec l'immigration. Là, l'immigration de résidents déclarant parler français a connu une baisse considérable. J'ai regardé au cours des 5 dernières années, ça a baissé de 8%. Et c'est cette tendance-là qui est extrêmement inquiétante parce que c'est bien sûr que il y aura du bilinguisme, M. Robitaille, c'est-à-dire que sûrement, avec le projet de loi, ça favorisera la connaissance du français, la francisation Québec pour offrir des cours, mais ça ne sera pas suffisant
ouais.
pour qu'il y ait des transferts linguistiques et qu'on parle français à la maison, et surtout, ça ne sera pas suffisant pour qu'on partage la culture québécoise. Et c'est vraiment un enjeu important qui n'est pas prévu dans le projet de loi, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive là finalement avec cette dissociation entre parler français, parce que vous devez parler anglais, mais pourtant vous baignez plutôt dans la culture québécoise, mais quand on a des rudiments de français, il n'est pas sûr qu'on choisisse la culture québécoise.
J'ai été surpris de voir les coffees réémerger dans votre mémoire. Est-ce que c'est pas un gouvernement du Parti québécois qui les a abolis, il me semble, c'est André Boisclair comme ministre? Est-ce que ça avait été, ça avait pas été discuté au Conseil des ministres, cet aspect-là de la politique de l'immigration?
Alors ça, c'était une immense erreur, du Parti québécois avec laquelle j'ai toujours été en désaccord.
Ouais.
Et Louise également, puisqu'on en a parlé. Mais disons qu'on n'a pas réussi à convaincre à ce moment-là, mais c'était une immense erreur parce que, justement, les COFI, les centres de...
d'orientation et de formation des immigrants, oui, il faut le rappeler aux auditeurs, oui.
Oui, à la fois desservaient, si vous voulez, les nouveaux arrivants, mais pas simplement en termes de francisation, mais aussi en termes d'acculturation aux valeurs québécoises, dirions-nous,
ouais.
À son histoire, à ses choix collectifs, et c'est extrêmement manquant présentement.
Mm-hmm. Ça manque.
Antoine.
Louise Beaudoin,
oui.
Oui,
on fait le procès, là, c'est le gouvernement du Parti québécois.
Non, mais c'est pas ça que je veux.
Il y a le temps à passer, Antoine, c'est ça que Louise veut se dire.
Ben oui.
L'immigration a changé, la mondialisation est passée par là.
Et je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas du gouvernement Charest, des gouvernements Charest. Vous étiez dans l'opposition.
Ben oui.
Vous êtes opposé à bien des choses qui ont faites et qui ont peut-être contribué à l'affaissement du français.
Absolument, mais là, on parle, dans le fond, du gouvernement actuel, puis de son projet de loi, puis notre mémoire, dans le fond, il porte essentiellement là-dessus. On s'en va pas en commission parlementaire pour faire l'histoire. On s'en va en commission parlementaire pour dire on a ça devant nous, et puis voici ce qu'on en pense, puis voici quelles conclusions on en tire.
Vous lui reprochez d'ailleurs de pas être conscient de la dimension internationale du français.
Oui. Je cite j'ai mis en exergue de ce point-là la phrase de Pierre Bourgault.
Cette phrase, c'est le français, c'est le nous isole en Amérique du Nord, nous ouvre aussi tous les horizons à travers le monde.
Je crois que ce que cette phrase-là nous dit, c'est qu'il y a 200 millions de francophones et de francophiles à travers le monde, disséminés sur les 5 continents, et que notre avenir, notre destin francophone est lié à ce que le français demeure une grande langue internationale. Et que le Québec, qui a toujours pris le leadership sur ces questions-là en francophonie, à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, doit le reprendre.
Mm-hmm.
Pour faire en sorte que le français, qui est le cœur de métier de la francophonie, qui devrait l'être, en tout cas le redevienne, et qu'on s'assure, c'est ça notre première responsabilité de francophones, nous autres dans les Amériques, que le français demeure une grande langue internationale pour qu'il y ait cette fierté aussi de parler français, de parler l'autre grande langue internationale, comme disait le slogan de l'OIF à l'époque.
Oui.
Alors pour moi, c'est foncièrement important. Il parle avec raison dans le projet de loi. À l'article 29, des Acadiens et des francophones hors Québec. Et moi, je veux qu'on ajoute, justement, la dimension internationale de nos intérêts nationaux en ce qui concerne la langue française. Oui.
À Montréal, maintenant, l'administration s'est comme ajustée à sa clientèle. Est-ce qu'elle s'est trop ajustée, Louise Arel?
Bien, écoutez, à Montréal, vous parlez de l'administration, mais il en vaut tout autant pour les services en santé, par exemple.
Ouais.
Du
gouvernement du Québec.
Le même phénomène. Oui, du gouvernement du Québec, vous avez exactement le même phénomène. Je me suis déjà fait répondre en anglais à mon CLSC d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, vraiment, c'est la langue de l'administration, je pense que Louise l'a bien mentionné dans le mémoire, mais c'est peut-être finalement ce qu'on considère comme étant le meilleur de ce que...
Le plus prometteur, oui.
Le plus prometteur. Mais il n'en demeure pas moins que les indicateurs performants, là, ceux qui ont été structurants pour de faire passer de 10 à 53 %
oui.
Le français parlé à la maison, ça a été l'immigration et ça a été les clauses scolaires
l'école.
Au niveau
oui.
de l'école. Exactement.
Mm-hmm.
Alors, c'est là le fil conducteur, c'est bien sûr dans notre mémoire, c'est comment vraiment faire en sorte qu'on puisse tendre vers cet objectif du 90 %. en oubliant l'immigration et puis en intégrant des demi-mesures comme le gel et le contingentement qui ne vont pas modifier l'équilibre à Montréal en particulier. D'autant que le projet de loi contient une exemption de l'épreuve uniforme en anglais.
Oui, je pensais que finalement, c'était appliqué, c'était obligatoire. Vous me l'apprenez, là, que c'était dans votre mémoire qu'il y a des exemptions.
Oui, l'exemption pour les étudiants anglophones, disons, je ne sais pas si on peut dire de souche ou encore, il y a une expression les ayants droit, là.
Les ayants droit, oui.
Ouais, mais c'est l'exemption qui dans le fond est aberrante quand on dit qu'on veut une langue commune et que on veut pas s'assurer que tout le monde la maîtrise.
Mm-hmm. On posera la question à Greg Kelly du Parti libéral du Québec à ce moment-là pour savoir si il y a
le nouveau marié.
Oui, exactement. Ben merci infiniment les deux Louise.
Au plaisir Antoine.
Au revoir Louise Arel et Louise Baudouin.
Au revoir Antoine.
Et c'est ce qui met fin à La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.